Radio Bandit avec onde courte. Radio Bandit avec onde courte. Radio Bandit avec onde courte. C'est le conciliabule, après c'est onde courte.
Toujours en direct du Bandit Festival à IPNTA, donc à Toulouse. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous écoutez Onde Courte. Et je reçois autour du studio quatre membres du CASO. Alors on va en parler dans un instant. Qu'est-ce que c'est le CASO? Mais d'abord, si tu veux bien te présenter.
Je fais partie du CASO parce que je fais du son dans la vie.
Moi, je m'appelle Émilie, puis je suis une copine de Benoît, alors c'est pour ça que je fais partie du CASO. Non, c'est pas vrai. Enfin, aussi, mais...
Non, parce qu'à ce compte-là, on est tous dans le CASO.
Oui, c'est ça.
Moi, c'est Mathieu, c'est la cousine de la tante de la collègue d'Émilie qui m'a présenté Benoît, et du coup, je suis au CASO, parce que je fais du son aussi.
Et pareil, voilà. Moi, je suis Emmanuel et je fais aussi partie du CASO.
Et puis Emmanuel, elle est un petit peu dans l'orga aussi, un tout petit peu dans l'orga
Un petit peu dans l'orga de la Radio Bandit, un petit peu.
Juste un petit peu. On est donc pour ce troisième plateau, on va vous parler un petit peu de création sonore parce que la spécificité du Festival Bandit, c'est de parler des narrations en général. Et nous, on est assez contents parce que c'est vrai que c'est rare qu'on puisse parler de création ou d'écriture sonore sur un festival d'édition ou d'auto-édition. Donc là, c'est l'occasion. Mais d'abord, le CASO, mais qu'est-ce que c'est?
Alors... On peut faire une aide chacun. Alors, ouais. CASO, le C, c'est collectif.
D'auteur.
Je ne sais plus la vraie.
Sauvage.
Sauvage, oui, c'est sauvage.
Occitan.
Occitan, d'Occitanie, voilà.
C'est bon. Sonore.
Mais c'est sonore, le...
c'est sonore, il me semble.
Peut-être.
Parce que vous êtes tous engagés dans des pratiques autour du son, alors on va un peu détailler, hein, même si c'est vrai que l'auteur sonore est modeste. Enfin, c'est surtout qu'on ne le connaît pas, on ne le voit jamais, donc c'est l'occasion d'en parler un peu plus. Benoît, mais qu'est-ce que tu fais en son? C'est quoi
ton... Au départ du documentaire, puis un peu de composition acousmatique, hein, la musique pour là où ça peut être diffusé, du spectacle vivant, des théâtres, des musées. Voilà. Et l'occasion, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est plein avec des pratiques sonores très différentes, mais pas si différentes que ça, et à utiliser plein de moyens de diffusion différents. Et l'idée, c'était un peu de se regrouper les forces. Après, vu qu'on est souvent seul dans nos pratiques, hein, on a tendance à essayer de s'agripper très vite quand on se rencontre. Et voilà, c'est un peu les... Ouais, pour moi, les deux thématiques qui étaient intéressantes pour se retrouver et faire des réunions.
Émilie, toi, ta pratique du son?
Ma pratique du son, c'est plus lié au spectacle vivant, mais pas seulement. Je fais aussi de la composition électroacoustique sous forme d'installation, de parcours dans des paysages, des choses comme ça. Aussi un peu de radio. Et puis des ateliers aussi, avec des publics variés. Parce que dans le CASO, on aime bien la transmission.
Et moi, je suis un peu comme Émilie et Benoît. Je suis aussi avec le spectacle vivant. Je compose pour des spectacles. Et puis de la composition acousmatique à côté et beaucoup de live en fait, avec des duos. J'ai trois duos, moi, je sais pas pourquoi, c'est un duo.
J'adore les duos.
Trois
moi
duos.
Aussi, j'adore les duos.
Et bah, moi, je fais du documentaire sonore, de la fiction sonore. J'aime bien essayer des trucs nouveaux aussi, bosser avec des gens et aller vers... là, récemment, ces dernières années, j'ai fait un petit peu d'installation, du son pour des installations plastiques aussi. Du son pour des films, parfois, des films d'animation, des ateliers aussi.
Puis nous, on court du coup, parce qu'on fait aussi partie du CASO, on diffuse de la création sonore. Nous, on est à cet endroit-là, ou alors on va être à l'initiation, au tout début. Et composition électro-acousmatique, est-ce que je le dis mal peut-être? Vous pouvez préciser ce que c'est?
Alors, c'est un travail avec les sons fixés, en fait. C'est pour ça que ça rejoint la radiophonie. Enfin, c'est né de l'ORTF dans les années 50-60. Et donc c'est vraiment un travail sur le son fixé, comment on peut travailler un son quand il est fixé sur support, quoi. Et comment on peut écrire, faire une narration avec, faire un discours musical, faire, je sais pas, une ambiance.
On va y revenir parce que alors, dans cette interview, on vous a prévu quelques petits rebondissements et notamment à un moment, on diffusera des extraits de création sonore et on discutera un peu autour de ça. La création sonore d'abord, mais qu'est-ce que c'est? Ça englobe quoi, la création sonore? Parce qu'il y a toujours cette idée.
C'est général.
Ah, c'est toi qui as écrit les questions.
Ouais, je sais. Je pensais pas être autour de cette table pour y répondre.
Oh là, je vais bien les
retour à l'envoyeur.
Ils vont être bien séchés là avec celle-là.
Bah, Ça englobe beaucoup de choses et c'est ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est pas une discussion figée, c'est que ça évolue avec les pratiques, avec les supports. Je te donne un exemple. Par exemple, on a parlé beaucoup à une époque de art radiophonique, hein, et en fait, c'est un art du dispositif, c'est-à-dire travailler le dispositif radio comme une façon de moduler le son, de le réenregistrer, de faire des boucles avec. Et maintenant, avec les nouvelles technologies, par exemple, on ne peut plus parler d'art radiophonique, mais on va parler d'art du dispositif. Et par exemple, on peut utiliser des médias sociaux comme Twitter, Facebook, surtout Twitter, pour faire des codes binaires qu'on peut réintroduire dans un logiciel qui va enclencher des sons, les modifier. Et voilà, c'est pour donner un exemple qu'en fait, au fur et à mesure de l'évolution des techniques, hein, du coup, la création aussi, elle évolue. Et donc c'est jamais figé et moi j'ai tendance à dire que à chaque fois que je découvre des nouvelles pratiques et de nouvelles pratiques de diffusion avec d'autres auteurs, il y a un membre et des pratiques de plus qui sont dans la famille.
On va y revenir du coup à qui fait partie du CASO, mais justement c'était ce que vous évoquiez autour de la table, on se rend compte, on associe parfois création sonore, on pense radio, mais c'est en fin de compte pas ce qui se passe là autour de la table. Vous venez peut-être du monde de la radio, certains.
Ben certains, oui.
Moi, je viens de la radio. Hein.
Pas moi. Moi non plus. Moi aussi, je viens de la radio, mais voilà, oui, c'est pas forcément c'est loin d'être lié. D'ailleurs, je crois que c'est quelque chose qui est important dans le CASO, de détacher l'idée création sonore, ça ne veut pas dire création radiophonique.
Pas nécessairement.
Oui, parce que dans la création sonore, j'ai l'impression qu'il y a aussi une histoire de variété de contenu, que le son, c'est pas que de l'instrumental ou que du musical, c'est aussi du bruit, comment est-ce qu'on peut faire de la musique avec des objets du quotidien. Quand Mathieu il parlait de son fixé, c'est aussi ça. Et du coup, c'est à la fois tous les contextes dans lesquels le son peut se déployer et en même temps tout ce qu'on peut mettre dedans en termes d'écriture et de matière, quoi.
Et de dispositifs de diffusion. Est-ce que là aussi ça rentre là-dedans ? Parce que toi, tu travailles par exemple sur de la diffusion sur multi-enceinte.
Ouais. C'est ton... et ça, du coup, ça, je pense que ça fait aussi partie de ce qu'on disait de l'acousmatique ou de l'électroacoustique. C'est une façon aussi de comment est-ce que tu tricotes à partir d'une piste stéréo ? Comment est-ce que tu l'éclates dans l'espace ? Comment est-ce que tu déplaces l'écoute, en fait ? Comment est-ce que tu peux faire écouter une pièce sonore dans un jardin avec 18 haut-parleurs et que chaque auditeur se fasse son propre mixage en fonction de là où il est situé ? Enfin, voilà, c'est aussi ce genre de choses, je crois.
Qui fait partie du CASO ? Alors, c'est un collectif tout récent. Donc voilà, mais.
La date, c'est le 3 décembre. Ouais.
Ah oui, ouais. Hein, c'est un bébé, 3 décembre 2018. Jeune collectif. Mais on est déjà quelques-uns.
En tout, il y a combien liste, on peut savoir.
Alors, on peut savoir combien il y a de personnes.
Une petite quarantaine. Je dirais pas exactement, mais sur la liste, on est une petite quarantaine. Ouais.
Du coup, ça va de qui à qui ? On va retrouver
c'est
qui ?
C'est intergénérationnel dans ce
collectif.
En plus.
Comme personne, il y a Agnès Gontier qui fait des balades sonores documentaires sur Toulouse. T'as Daniel Martin-Bourré qui fait de la fiction, qui est installé dans les Cévennes. Stéphane Marin qui fait du field recording, c'est-à-dire il enregistre le paysage, il fait des compositions avec et beaucoup de balades sonores. Sophie Pilot qui fait du documentaire de la balade et qui a travaillé à France Culture auparavant. Richard, je connais plus son nom de famille, qui est un ancien technicien pour l'audiovisuel et qui fait du documentaire chez lui. Il y a beaucoup de pratiques et beaucoup de lieux de diffusion différents.
Céline aussi, Della Savia, qui travaille aux archives d'Albi, aux archives audiovisuelles, à l'archivie sonore.
Ah, ça existe ce métier ?
Un truc de ouf. Elle gère les collections d'archives sonores et elle les valorise.
On en parlera d'ailleurs, hein, parce qu'elle organise un petit festival bien sympa autour de ça. On y reviendra. Et alors, tu l'as évoqué, hein, Benoît, mais on est tous un peu dans nos pratiques comme ça, parfois un peu solitaires. Donc, pourquoi c'était important de se réunir et de créer le CASO ?
Y avait déjà un premier truc, c'est qu'il y a un peu une sorte de migration sonore vers la Belgique et vers Bruxelles depuis pas mal d'années. Et l'idée, c'était de reprendre un petit peu cet exemple belge où il y a un vrai fonds de soutien public pour la création sonore, qui est un peu l'équivalent du CNC français, mais en Belgique, en Wallonie exactement, pour la création sonore. Et l'idée, c'était d'impulser un petit peu aussi une dynamique pour pousser les pouvoirs publics à reconnaître la discipline, ce qui se fait de plus en plus maintenant. notamment au niveau du CNAP, le Conseil national des arts plastiques. La création sonore, c'est une discipline depuis 4-5 ans. Donc, c'est-à-dire voilà, des artistes auteurs peuvent avoir des bourses de recherche pour la création sonore sur plusieurs années. Donc il y avait cette envie-là. Et l'autre envie, c'était pouvoir se réunir avec plein de pratiques différentes. À des moments, s'échanger des trucs, des recettes, du matos. Enfin, ça appelait sur plein de choses. Là, on était en train de discuter autour d'une clope et de café. Et on parlait d'échanges de micro-contacts pour un tournage. Ça va là-dedans aussi. Et c'est important, quoi.
Et du coup, tu parlais un peu du rayonnement. C'est quoi l'objectif du CASO ? Ou les objectifs ? Alors, je sais, on est nouveau, donc on est encore dans l'élaboration de la charte et compagnie, mais l'idée derrière, c'est quoi ? Au niveau régional, du coup.
Après, il y a un idéal. Après, c'est des choses qu'on est en train de discuter au niveau du CASO. Ce qu'on essaie d'impulser là, c'est de solliciter un service public de la création sonore avec un fonds à créer. Éventuellement une sorte de structure de coordination qui permettrait de gérer le mouvement et la dynamique au niveau d'un fonds. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de donner de l'argent pour créer des créations sonores, mais il y a tout un univers à élaborer en termes de structure de production, de structure de suivi d'auteurs, ce que pas mal d'auteurs font chez eux, c'est-à-dire qu'on est plusieurs à avoir un studio de mixage pour mixer en multicanal avec plusieurs haut-parleurs. On a nos propres matériels d'équipement sonore, de captation, et d'arriver à mettre ça un peu ensemble et de pouvoir accompagner des auteurs. C'est-à-dire que le fond, il se pense en amont, mais aussi en aval. C'est-à-dire comment on fait pour accompagner des auteurs qui ont des idées d'écriture, comment on fait pour les accompagner à la production, et comment on fait après pour essayer de dynamiser un système de diffusion au niveau de la région, pour l'instant, qui n'est pas là. C'est-à-dire, par exemple, moi, ça fait 10 ans que je fais de la radio, et je ne diffuse pas en radio locale parce que il n'y a pas d'économie. C'est-à-dire que si je veux faire un documentaire radio, pouvoir payer mon loyer à côté, je suis obligé d'aller solliciter des fonds, soit étrangers, soit nationaux, et diffuser dans des radios nationales. Et c'est comment faire le lien avec un réseau régional. Après, il y a un autre truc qui est très urgent, je pense, c'est au niveau de l'industrie du podcast. Ça, c'est très fondamental pour moi. L'industrie du podcast au niveau des GAFA, c'est en train d'arriver en Europe. Par exemple, moi, j'ai un ami qui travaille maintenant aux États-Unis où l'industrie du podcast est très, très vivace, où il y a une vraie économie. Et là, en fait, il s'est fait démarcher par Deezer pour faire une sorte de caravane de training ultra rapide pour faire du podcast à l'américaine, c'est-à-dire une voix en premier plan, raconter des choses un peu intimes. Et là, en fait, il y a des GAFA qui sont en train de se placer. Donc, il y a Deezer, Spotify, Google qui sont en train de se placer pour l'industrie du podcast. Et c'est en fait, qu'est-ce qu'on a comme réponse à donner pour proposer une création sonore qui est faite dans d'autres réseaux industriels ou d'autres réseaux de production pour proposer une création sonore en fait, qui n'est pas gérée par des machines et des intelligences artificielles. Et l'intérêt par rapport à ça, c'est... quand on parle de création sonore, on va parler d'intime. C'est quelque chose qui va nous façonner culturellement. C'est-à-dire que quand vous allez écouter des histoires quotidiennement par rapport à des thématiques sociales, je pense que cette mission, je n'ai pas envie de la confier à des algorithmes dont je ne connais pas la finalité et je ne sais pas vers quel type d'histoire et quel type de narration ils vont me faire tendre pour qu'après j'aille consommer certaines choses. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment à nous et au secteur public à prendre en charge cette industrie-là, ce culturel, pour proposer autre chose. D'ailleurs, je pense pas que Google, en fait, ait envie de produire des créations sonores où on va passer beaucoup de temps sur du tournage pour essayer de travailler du son en profondeur, aller chercher certaines personnes à enregistrer. Je pense qu'ils vont plutôt être tentés d'aller chercher des gens. Qui ont une bonne élocution, qui ont un certain profil. Et donc, du coup, on va avoir des thématiques qui vont généralement ressortir. Et par exemple, sur du podcast à l'américaine, ce qui ressort beaucoup, c'est des questions de genre, de sexualité, qui sont plutôt des thématiques qui ressurgissent chez la population blanche de centre-ville. Je caricature un peu, hein. C'est un peu pour vulgariser, mais il y a un peu cette tendance-là. Et donc aller chercher des personnes qui vont nous raconter des histoires, qui vont avoir des silences, des problèmes d'élocution, vous allez devoir aller chercher beaucoup de sons pour essayer de les accompagner au niveau de l'histoire. Je pense pas que c'est le système industriel des GAFA qui va produire ça. Et c'est là où je pense que c'est extrêmement urgent. Hein. Ça arrive maintenant. Je pense que Deezer, Spotify, ils vont sortir des premiers podcasts français d'ici 2020. Enfin, c'est demain, quoi. Mmh. Même pas.
Donc à nous, l'idée, ce serait de défendre des productions de qualité, des podcasts. Parce que les podcasts sont devenus une manière d'écouter qui est assez, qui se répand de plus en plus. Et donc c'est d'occuper, d'être aussi sur ce terrain-là, de pas laisser la place vide. Et auquel cas, c'est ce que tu dis, ce qui pourrait se passer. Et puisqu'on est sur le festival des narrations, moi j'aimerais savoir un petit peu vous, c'est quoi pour vous écrire, parce qu'on parle d'écriture sonore. Comment vous définissez votre pratique, vous, en termes de création sonore? C'est de l'écriture sonore, du field recording, ou tout mélangé? Ça dépend des fois.
Ça dépend des fois. Moi, j'essaie juste de mener une écoute, quoi, d'un point A à un point B, essayer d'avoir une espèce de forme. D'arriver à un endroit à la fin, quoi. Mais ça peut être avec n'importe quel moyen.
Tu le sais à l'avance où tu vas arriver, ou même ça c'est...
Ah non, ça j'aime bien pas le savoir à l'avance. Justement, je me bats contre ça, moi. J'aime pas du tout cette manière de faire, quoi. D'avoir un plan et de se dire... J'aime bien être confronté à la matière et qu'elle me fasse plein de surprises. Et au bout d'un moment, t'arrives à un endroit auquel t'avais pas pensé, ouais. Ça, c'est plutôt... Mais ça dépend. Ça, je parle plutôt en musique. En documentaire, après, ça dépend...
Bon, je laisse la parole à Émilie.
Oui, parce que toi aussi, comment tu travailles, avec ce matériau qui est très spécifique. Je pense que les auditeurs ne se rendent pas compte qu'une écriture sonore, c'est quelque chose de bien particulier quand même. Hein.
Ouais, en tout cas, moi, je suis d'accord avec Mathieu sur le côté que c'est aussi le son, c'est une matière qui peut résister, quoi, et que tu peux avoir une idée préconçue de la forme que tu as envie de faire, et puis en fait tu écoutes tes enregistrements et c'est la matière même qui va décider que non, ça finalement ça va pas pouvoir s'écrire de cette manière, et que indépendamment des problèmes de bruit de perche ou de je parle pas vraiment des choses techniques là, je parle vraiment de t'as été enregistré dans la montagne parce que tu veux faire un travail sur la perception de l'espace et en fait, la vallée, elle résonne pas du tout comme ce que tu avais dans la tête. Et puis finalement, je dis un exemple complètement hors, parce que c'est pas du tout lié à un projet que je fais d'ailleurs. Mais voilà, ce genre de choses, vraiment la matière en elle-même qui peut résister. Alors après, moi, ça dépend vraiment des contextes et des projets. Je fais jamais la même chose, même si moi, je crois que j'aime bien. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que ça peut pas être complètement anticipé. Faire des choses avec les gens. Des contextes dans lesquels je suis. Par exemple, en ce moment, je fais un projet dans la Creuse, dans un tout petit village. Et même si je sais ce sur quoi je veux travailler, évidemment que sans avoir rencontré les personnes à l'avance, c'est aussi eux qui vont m'emmener dans d'autres chemins. Et par exemple, cette forme-là, dans ma tête, elle a été prévue pour être assez documentaire. Elle va se retrouver à avoir une grosse part de création musicale, bruitiste et très abstraite, en fait, je pense. Et voilà, et du coup là c'est vraiment en fonction de ce que les gens m'ont raconté, ça m'a fait dévier dans mon idée de départ. Après, évidemment ça part de la prise de son. Enfin, moi c'est vraiment ma première passion, c'est comment est-ce que tu le son, ça a un corps, quoi. Vraiment, j'arrête pas de dire matière, mais c'est vraiment ça. Il y a vraiment un truc de sculpture, quoi, de matière. Donc moi je crois que j'adore enregistrer, et à partir de là l'écriture mais c'est comme de la littérature, c'est comme du. C'est un procédé de montage, c'est un procédé d'association, de mise en relation des choses les unes par rapport aux autres. Donc c'est un rapport à l'espace aussi. Et puis je crois que ce que Mathieu a dit en premier, de mener l'écoute d'un point A à un point B, c'est vraiment ça. On ne fait pas ça pour. On fait ça pour s'adresser à quelqu'un. Et idem, moi par exemple. Comme je travaille pas mal pour le son pour la marionnette, par exemple, c'est encore complètement différent. Une écriture qui va être dans un espace de boîte, de théâtre, avec sa résonance et son acoustique. Quel type de source tu vas pouvoir utiliser, et puis comment est-ce que ton écriture va passer la rampe pour s'adresser, partir du plateau, pour s'adresser à une salle et à des spectateurs, et qu'est-ce qu'ils vont en recevoir. Et ça aussi, c'est un champ énorme et complètement différent, qui est hors documentaire, hors installation sonore dans le paysage, etc. C'est encore complètement autre chose.
On comprend que la diffusion dans le cadre de la création sonore, c'est complètement, c'est pas figé, quoi. Ça peut prendre des formes vraiment différentes. Et que c'est un gros boulot aussi, du coup. Qu'il y a la production, ok, mais la diffusion, c'est encore une autre partie, en fait.
Ah
ouais, c'est la moitié du travail. C'est la moitié du travail, j'ai l'impression. Mmh. Mmh.
C'est comme ça que toi, d'ailleurs, Ben, toi, bon, je ne sais pas bien pour toi, Mathieu, mais que tu as été amené à diffuser dans des endroits un peu atypiques, et notamment dans des musées, dans des endroits où, auxquels on ne s'attend pas à avoir forcément de l'écoute, des séances d'écoute.
Bah, y a un truc assez magique avec la diffusion, c'est que du coup, quand tu spatialises du son, et, bah, le son, en fait, il résonne avec le lieu. Et du coup, ton montage, tu le retransformes aussi par rapport à la diffusion du lieu. Et ça, c'est chouette. Et c'est pour ça que le live, là, c'est vraiment bien parce que t'as l'impression de vibrer avec le lieu, mais aussi avec les gens. Parce que tu peux faire attention à des signes aussi par rapport aux personnes. Des signes d'énervement, de trépignement ou d'impatience. Et du coup, tu vas prolonger un petit peu certains moments musicaux, en écourter certains... provoquer aussi des ruptures. La rupture de rythme, elle est hyper importante quand tu racontes une histoire. Ça permet de basculer de... Enfin, l'écoute, ça peut être presque un phénomène de transe à un moment donné. T'es dans un monde sonore, une évocation, et à un moment donné, de sortir brutalement l'auditeur de ce monde-là pour proposer un autre espace acoustique, c'est vraiment des ruptures qui reprovoquent de l'écoute. Un documentaire, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est raconter plein d'histoires parallèles en même temps que l'histoire principale. Et au départ, c'est quasiment perdre l'auditeur. Il se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi il entend ça. Et c'est à la fin que toutes ces histoires parallèles, elles se retrouvent ensemble. Enfin, tu mets une sorte de point final à ces histoires parallèles et l'histoire principale. C'est, en cinéma, on appelle ça le climax. Enfin, ouais. C'est exactement pareil. En son, la... particularité, c'est qu'on travaille beaucoup avec la dynamique, et donc tu vas travailler avec différents plans sonores et tu vas essayer de les faire passer de l'un à l'autre. Ils vont se soutenir, se compléter, des fois se confronter, et de temps en temps tu peux les faire passer de l'un par rapport à l'autre au niveau du premier plan. Et généralement c'est ça que j'attends beaucoup quand on essaie de me raconter une histoire avec du son, c'est de voilà d'être perturbé un petit peu par ces différents plans et d'être amené à aller chercher des objets qui, à des moments, vont être au fond, vont venir devant, et vont finalement me raconter une histoire qui n'est pas de l'ordre du disciple, mais plus de la suggestion, et je vais me faire ma propre image mentale.
Mmh. Parce que c'est ça l'idée, c'est que c'est le pouvoir d'évocation du son, au final, ce qu'on recherche, et, par image ou d'émotion, des choses comme ça. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une culture de l'écoute ? Est-ce qu'on... C'est peut-être un peu bizarre ma question, ou est-ce qu'il faudrait travailler là-dessus ? Parce qu'on est dans un monde saturé d'images, ça, c'est un poncif que je vous dis, mais bon, voilà.
Mais c'est vrai en même temps, ce que tu dis. Moi, je pense qu'il y a besoin dans l'éducation de remettre une petite couche sur l'écoute, oui, j'imagine. C'est une perception du monde qui est quand même super intéressante, je pense que c'est...
Puis qui laisse une part active de création aussi. C'est quand même ça, enfin, quand on parle de cinéma pour l'oreille... Il y a vraiment un truc où, par exemple, tu fais des séances d'écoute avec des enfants. C'est souvent... moi, à chaque fois, je me prends des claques de s'armer les choses à la base aussi. Et puis eux complètent, en fait. Enfin, l'auditeur complète, l'auditeur crée. Et ça laisse vraiment une part active l'écoute. Beaucoup plus que... Il ne s'agit pas de hiérarchiser les choses. En fait, mais effectivement... quand tu parles de culture de l'écoute, ouais, je pense que c'est vraiment nécessaire de développer ça, parce que autant dans les années 60 avec les laboratoires de recherche qu'il y a pu avoir à l'ORTF et à la radio, et mine de rien c'était très lié à la musique expérimentale à ce moment-là, là les choses elles sont beaucoup plus difficiles à... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut constamment mettre des étiquettes, tu vois. C'est pour ça que quand on dit création sonore ou écriture sonore, c'est aussi un super moyen de balayer tous les champs possibles du sonore et de pas évacuer la question, mais de le laisser dans sa diversité possible, parce qu'en fait, c'est très poreux et les choses, elles se croisent tout le temps. Et ouais, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est super important de... Ouais, l'éducation à l'écoute, c'est ultra important.
Qui pourrait faire partie des missions du CASO, hein, on en parle... Voilà, il y a cette idée aussi autour de ça.
Une éducation au son, au sonore, pour moi, ça fait partie des choses à mettre en parallèle d'un fond à l'écriture sonore. Mmh. Ça fait partie du dynamique. Et de toute façon, c'est les jeunes générations. Ce qu'on fait au CASO, pour moi, je pense que je suis presque même trop vieux en fait pour un jour me dire voilà, enfin, si on arrive à mettre en place des outils, je pense que c'est pour plus tard. Et c'est ça un peu la spécificité de tout le monde. Voilà, enfin, les gens qui ont autour de 40 ans ou un peu plus, ça fait à peu près 10-15 ans qu'on fait ce boulot et on a tous plus ou moins trouvé des sortes de magouilles ou de. Pour arriver à vivre de notre art, quoi. Enfin, c'est pas un magouille dans le sens de.
Non, des chemins de traverse, on va dire. Ou des
voilà, de trouver des moyens de diffusion, des moyens de production pour arriver à faire nos choses. Parce que la discipline, elle n'est pas structurée au niveau des institutions culturelles, quoi.
Et puis, on peut préciser qu'il n'y a pas d'économie autour de la création sonore. Quand on va toquer à la DRAC, par exemple, ils nous parlent d'audiovisuel. Dans audiovisuel, il y a visuel. L'audio. Enfin, moi, c'est mon sentiment. Hein. Je ne sais pas si vous les avez rencontrés. Mais...
Et là, ça me fait penser à quelque chose. Emmanuelle, du coup, qui fait partie de l'organisation du festival, elle est issue d'une formation. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font de la création sonore qui sont issus de cette formation. Le Créadoc.
Qu'on retrouvera tout à l'heure pour le conciliabule.
J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais il y a plusieurs membres du Créadoc qui en faisaient partie avant. En fait, une des spécificités et une des grandes qualités de cette formation, moi, j'avais toujours trouvé ça épatant quand j'avais compris ça, c'est que la première année, donc c'est une formation d'écriture documentaire, mais la première année, ils abordent pas forcément l'image, ils font exclusivement du son ou quasi. Il y a personne autour de la table qui l'a fait, qui pourrait me corriger, mais je crois que c'est vraiment ça. Et je crois que la formation là-bas est en train d'évoluer. Cette première année uniquement sonore, elle est plus ou moins sur la sellette. Et
il me semble, je regarde s'il y a quelques anciens du Créadoc, ça valide, ça dit oui, en effet. Oui,
ça, je crois que c'est assez révélateur de la situation et de ce qu'on risque de perdre aussi par rapport à ça, quoi. Voilà, ça fait partie des choses un peu dangereuses là qui sont en train de se passer.
Cette impression des fois que le son est un peu le parent pauvre
moi je dirais carrément qu'il n'est pas pensé. Si par exemple moi je m'amuse de temps en temps à proposer des projets sonores ou croisés à des commissions audiovisuelles. Et à partir du moment où le son n'est pas quelque chose de synchrone par rapport à l'image ou pensé essentiellement comme support, dès que tu parles d'écriture en amont au niveau du son et du croisement avec de l'image, du plastique, etc., tu sens qu'il y a très peu de répondants au niveau des gens qui font partie des commissions, qui sont plutôt dans le secteur audiovisuel classique. Voilà. Il y avait la commission du DICREAM au CNC qui avait un peu de répondants par rapport aux autres institutions. Maintenant, il y a la réalité virtuelle, donc c'est un peu autre chose. Mais tu sens qu'il y a vraiment tout à fait au niveau de la culture, quoi. Surtout que, en général, dans les commissions, c'est plutôt des gens qui sont installés depuis longtemps dans la profession. Et tu sens qu'il y a vraiment besoin d'un renouvellement et d'une éducation, d'une culture. Enfin, voilà, si tu n'as pas eu l'éducation au départ, au début de ta vie, du coup, après, c'est compliqué. Après, l'autre truc hyper important, je trouvais au CASO, et ça, c'est un peu quelque chose de général au niveau de la jeune génération. Bon, je m'inclus dedans, même si j'ai 40 balais. Mais c'est qu'on a tous des envies de croiser des disciplines qui étaient assez séparées. Enfin, moi, je me souviens au début, tu faisais du documentaire radio, mais c'était pas imaginable qu'à côté, tu fasses de la composition acousmatique ou électroacoustique. Et inversement, si tu faisais la composition électroacoustique, c'était compliqué d'accéder à des plages de diffusion dans la radio, dans du documentaire. Tout le monde fait un peu de tout et a envie de mélanger, d'utiliser l'acousmatique pour raconter des histoires avec de la narration, d'utiliser la voix pour faire la composition acousmatique. Ces envies de croisement, elles se retrouvent beaucoup, quoi. Et moi, c'est quelque chose que je ressens beaucoup au CASO. Non ?
Oui, ouais. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on écoute un extrait et tu vas nous le présenter d'une création sonore qui s'appelle Un temps de cochon. On réagira un peu parce que voilà, du coup, ça va illustrer ce que tu viens de nous dire. C'est parti. Non, c'est parti.
Ah, regarde-moi ça, quoi. J'ai une racine.
Alors, on va essayer de trouver tout ce bordel.
À l'âge de 14 ans, école, je passe mes examens, je fais ci, je fais là.
Et je suis reçu pour rentrer en Polytechnique.
Alors.
Je voulais être pilote dans l'aviation. Voilà. Ça me plaisait beaucoup. Je voyais les avions. Quand j'étais jeune, je voyais ces avions en l'air, tout ça. Ça me plaisait. Et surtout les avions à réaction, quand tu fais la fumée, tout le reste. Je suis reçu. Et quand je fais ma demande à l'école polytechnique, ben mes parents, parce que moi je n'ai pas fait. Et voilà, on refuse.
Non, ça c'est la marine, ça c'est pas ça. Non, c'est pas ça.
J'étais étranger, je ne pouvais pas rentrer.
Putain, il fallait que ce soit là. Je ne la trouve point. Et j'en ai deux en plus. Hein.
Alors, on m'a laissé passer les examens. On n'a rien dit. Ça, c'est la première des choses. On aurait pu me le dire avant. Et j'ai décidé d'arrêter. J'ai dit, bon, ben, ça suffit. J'ai dit, je ne vais pas m'emmerder la vie. Et j'ai arrêté l'école.
Alors, brevet sportif, cartonnière de travail. En voilà une.
Là, j'ai carrément arrêté l'école. Et mon père, oui, mais tu peux aller travailler. Parce que mon père, la première des valeurs, c'est le travail. Tu veux pas aller à l'école, c'est pas un problème. Alors tu vas travailler. Et c'est lui qui a choisi mon métier d'ailleurs. Et il me dit, j'ai un copain qui te prendrait bien en apprentissage, tu pourrais faire électricien.
Je sais pas où aller. Je sais pas où aller cette carte.
Alors je suis rentré là en apprentissage. D'ailleurs avec un maître d'apprentissage, ça va te faire rire. Il s'appelait Franco. Sébastien Franco, il s'appelait. J'ai d'ailleurs pris sa succession derrière. Hein. Et pendant des années, la succession de son métier, j'avais successeur de M. Franco. Enfin, après, je l'ai enlevé.
Ça, c'est la carte que j'avais de quand j'étais ouvrier. Hein? Après, j'avais une carte comme ça. C'était le même genre qu'il fallait que j'aille de temps en temps faire estampiller. Il y avait, c'était mettons, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, je ne me rappelle plus bien, hein, où j'allais au commissariat, il foutait un tampon. Et je n'avais le droit de travailler dans le temps des Garonne. Et chose que je ne savais pas, parce que moi, je reçois le carte de travail, moi, je fais ben, ce carte de travail, c'est bon. Hein, mais je ne savais pas, je n'avais pas fait attention que je pouvais travailler que dans le temps des Garonne.
Negros senegaleses, yo te lo digo en español, negros senegaleses, negro como el carbón de los ojos amarillos. La madre que los parió, aleó. Odio al senegalés, odio al francés cabrón, todos hijo de puta, la madre que los parió, aleó. ¿Sí duré? Me sé bon. Negros senegaleses, negro como el carbón de los ojos amarillos. La madre que los parió, aleó. Odio al senegalés, odio al francés cabrón, todos hijo de puta, la madre que los parió, aleó.
Vous mangez, laissez comme manger là, nous.
Ah, ben merci beaucoup, c'est gentil. Mais je veux pas m'imposer, hein.
Hein?
Je veux pas m'imposer.
Non, 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 vous imposez pas, c'est puisque moi, c'est moi qui vous invite.
Prêt ?
On n'entend pas, ça enregistre là.
C'est le
conciliabule. C'est le conciliabule. C'est le conciliabule, là. Allez, allez, venez, venez, venez.
C'est le conciliabule.
Venez, venez, venez. Petit.
Conciliabule.
Radio Bandit. Conciliabule.
Ah, c'est le conciliabule.
Toujours en direct du Festival Bandit à Toulouse, à IPNTA. Donc rejoignez-nous, hein, c'est encore aujourd'hui et demain. Plein de choses à découvrir et à écouter. Donc on vient d'écouter un extrait de Un temps de cochon de Benoît Boris. Alors, on en parlait du coup, ce mélange entre la narration et d'autres types d'écriture sonore au final. C'est pas simplement de la voix, c'est plus que ça.
Ce qui m'intéressait de faire écouter, c'était le différents plans. Par exemple, au départ, là, on entend toute la narration de Juan qui raconte ses premières galères au travail. Et en fait, c'est mélangé avec deux séquences où je l'ai enregistré à des moments différents. Une où il est en train de chercher sa carte de travail. On comprend pas forcément au départ. Ce qui était intéressant, c'était juste jouer avec ses soupirs et le fait qu'il cherche des choses, comme s'il était en train de chercher quelque chose au niveau de sa mémoire, qui permet d'entrecouper la narration. Et en fait, c'est là où on voit que la voix narrative se met au service d'une composition du paysage que tu découpes. Et ça te permet du coup d'entremêler la voix avec un paysage. Et l'autre, c'est Juan qui est juste en train de faire des travaux de terrassement. Et pour moi, ça symbolisait un petit peu la situation de Juan qui, après avoir été empêché de pouvoir faire ses études et être pilote d'avion, est contraint à faire des travaux manuels. Et pour moi, ça, c'était la sonorité en fait, d'une situation finale d'un réfugié qui arrive en France, qui a des compétences et qui est contraint par un système administratif d'aller là où le système administratif lui dit d'aller. Quoi.
Ici, réfugié de la guerre d'Espagne, puisque un temps de cochon, on est là-dessus. Ouais. Vous voulez réagir parce que du coup, j'imagine que vous, ça vous parle fort, ce procédé-là.
Oui, moi j'aime bien le lien qu'il fait avec rythmiquement son montage et la prosodie de la voix, quoi. Toute la musicalité, c'est une leçon de musique, l'accent qu'ils ont, la prosodie en fait, et comment Benoît il arrive à rythmiquement à coller à ça et donc à avoir une vraie cohérence au niveau sonore.
Mais sans que ce soit de la musique, parce que je sais qu'on a déjà eu ces débats-là dans le caso.
C'est pas de la frontière musique, c'est des outils musicaux aussi, je sais pas. On n'a pas une vision essentialiste de la musique, donc on s'en fiche, nous. Mais après, je sais pas.
Vous voulez réagir là-dessus ? Peut-être toi qui viens du Créadoc, justement, ce regard sur l'écriture sonore.
Le Créadoc, je ne sais pas si vous avez défini un peu.
Pas trop, justement, on t'attendait.
Alors, justement, parce qu'à 18h30, il y a un autre conciliabule autour du Créadoc, donc ça sera l'occasion de développer. En gros, en quelques mots, le Créadoc, c'est un master pro de l'université de Poitiers qui se trouve à Angoulême. Et donc, la première année de cette formation, elle est consacrée à la création sonore. Donc, au sens large, et on aborde au fil de l'année. Le son et comment le son seul peut être narratif et qu'est-ce qu'on va pouvoir tricoter avec ça avant d'aborder de l'image, parce que la deuxième année du master elle est consacrée aux documentaires filmés et c'est une très bonne approche déjà de commencer à raconter en son seul avant de faire de l'image pour intégrer ce que le son peut charrier en lui-même. Et donc tous les ans, ça se décline. Il y a des exercices différents. On passe du documentaire à la fiction, à des collaborations avec une école d'animation, l'EMCA, à Angoulême aussi, sur des formes courtes. Moi, je peux parler de ma promo, parce que c'est celle que j'ai vécue. On avait fait de l'audiodescription aussi autour d'un court-métrage, comment rendre ça accessible à des gens malvoyants ou non-voyants. Tous les ans c'est un peu différent. Il y a une année où ils ont bossé avec les élèves du Théâtre National de Bretagne sur de l'écriture documentaire ensuite interprétée et en fait cette formation, cette première année qui est assez riche et rare en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de formations qui ressemblent à ça, elle est en péril parce que l'année prochaine il n'y aura pas de première année, et donc ça on va en discuter un peu plus tout à l'heure.
Mais oui. Et du coup, de se dire qu'en effet, le son, c'est pas forcément pour illustrer l'image. Ça peut être plus que ça.
Exactement.
C'est ça l'approche. Hein. Alors, du coup, toi, on va...
Et de même, pour rebondir à ce que tu dis, quand on travaille sur des différentes couches sonores, l'idée, c'est de jamais illustrer une couche qui est au-dessus ou en dessous, mais de toujours arriver à une sorte de complémentarité entre les couches pour créer plusieurs grilles d'entrée de lecture et avoir plusieurs points d'appui. Mmh. Voilà. C'est très important aussi, je trouve. Et du coup, ce travail en multicouche, c'est souvent quelque chose qui est vachement utile. C'est là où je trouve très intelligent la formation du CREADOC. C'est qu'une fois, quand tu poses un peu ces bases au niveau de l'écriture sonore, du coup, c'est plus facile pour trouver des écritures croisées avec d'autres médiums, je trouve. Parce que du coup, en fait, le jeu, c'est un peu du son. Tu fais des associations d'idées et des fois, ça peut être vraiment des petits fils ténus, mais finalement, tu te dis ça va jamais marcher. Finalement, ça marche au final. Et c'est là où ça rejoint ce que disait Mathieu, de dire on se laisse porter par la matière et à un moment donné, on fait des associations d'idées, puis il y a un truc qui. Et ça ne correspond pas du tout à ce qu'on s'était imaginé au départ. Quoi.
Ça peut être assez étrange à comprendre pour l'auditeur de se dire que souvent, nous, dans notre travail, parce que je vous rejoins, j'ai la même chose, mais là, même sur du reportage, on ne sait pas vraiment où on va, en fait. Et ça, c'est parfois assez étrange. Même moi, quand je travaille avec des enfants, il y a une grosse part d'inconnu qui est liée à la rencontre, à ce qu'on va faire, la matière sonore, et le moment, en fait, aussi, cet instant où on va faire la captation. Tu vas diffuser l'ensemble, donc on vient d'écouter un extrait de Un temps de cochon, mais cette création sonore, mais toi si tu dis concert documentaire, tu vas la diffuser en entier pendant un festival qui s'appelle Rien à voir. Alors on est très content de l'annoncer, ce festival, parce que ça fait, il y a des choses autour du son, mais là c'est vraiment un festival dédié à l'écoute et ça va se passer à Monestier le samedi 15 juin. Voilà, donc tout un tas de dispositifs sonores. Vous y serez ?
Oui.
Ah, oui. Ouais, on y sera tous. Donc voilà l'occasion de se rencontrer.
Il y a un super camping.
Ah, ça c'est bon à savoir. Monestier, c'est dans le Tarn. Toutes les infos, vous pourrez les avoir sur bricole.org pour avoir le programme complet qui, je crois, est déjà bien, bien riche, hein, il me semble. T'as peut-être des éléments ?
Non, je ne dirai rien. Oh,
okay,
allez voir sur Internet.
On ne va pas spoiler. Et puis ici aussi, donc, le Festival Bandit a tenu à faire quelque chose autour de l'enregistrement et de l'écoute. Il y a un dispositif un petit peu original qui est installé à l'entrée de la salle.
Alors, il s'agit du racontoir. Alors, en fait, le racontoir, c'est une cabine d'enregistrement qui a été fabriquée et pensée par des gens d'une association qui s'appelle l'Orti, qui, eux, font plutôt... de l'ethnographie urbaine, on va dire. Et en fait, c'est une cabine qui a été réalisée pour être disposée dans la rue, dans l'espace public, en fait, dans les quartiers qui jouxtent la gare, en fait, et qui font partie du plan TESO, Toulouse Euro Sud-Ouest, qui est un gros plan d'urbanisme qui commence à toucher Toulouse en ce moment. Et donc l'idée, c'était pour l'Orti de sortir cette cabine dans la rue et d'enregistrer des témoignages de gens du quartier. De récolter des paroles sur des vécus d'habitants, des questions sur le projet TESO, ce que les gens en pensaient, etc. Et de faire cette collecte comme ça de paroles. Il y a déjà eu une émission de radio diffusée sur Bras Zéro, qui est une émission de Canal Sud, qui a été faite à partir de témoignages collectés avec le racontoir. Et donc là, on les a invités à poser le racontoir pendant le festival, comme on se trouve
On est au cœur du TESO.
Voilà. Ça avait du sens que ça soit ici. Et demain, à 13h, je crois, il y a une discussion justement croisée autour de comment raconter la ville, des gens qui ont des pratiques de narration urbaine. Il y aura... L'Orti, Ariella et Américo qui seront là, Aurélien des Voix de Traverse aussi qui fait des balades sonores, qui font des balades sonores, notamment à Toulouse, ils en ont fait deux. Il y aura aussi Ludo qui fait partie d'une asso qui s'appelle La Disquette et lui il a des pratiques de cartographie sonore en atelier. Il travaille pas mal autour de l'objet carte. Et il y a aussi un collectif d'édition qui est présent sur le festival qui s'appelle La Perche Carrée. Et donc, c'est deux nanas qui font du fanzine autour d'espaces comme ça. Et elles ont notamment une petite revue qui s'appelle Les Pèlerins Vagues. Et qui. C'est des petits fanzines autour de balades dans Toulouse, en fait, qu'elles ont fait, où elles prennent des photos, elles font des dessins. Et il y a du texte aussi autour de ressentis comme ça sur des zones diverses et variées de Toulouse. Et pas que, mais on en parlera demain.
Voilà. Et tout de suite, tu vas nous expliquer aussi, parce qu'on va enchaîner. Donc, bon, le caso, on a. Alors, caso, on pourra en donner plus. Quand vous taperez dans quelques temps sur Internet caso, vous trouverez. Donc, un collectif jour. Des auteurs sauvages d'Occitanie, vous trouverez des infos. Pour le moment, on a un petit doute là-dessus. On laisse une. Pareil, on va rien spoiler, donc on ne vous donne pas notre site. Et, mais dans un instant, on va écouter une sélection de création de Jeff Clack. Alors là, c'est à vous, parce que vous en faites partie, Jeff Clack.
Hein ? J'y vais ? Bon. Donc oui, on va écouter. C'est pas vraiment une, voilà, c'est une sélection de création, si on veut. C'est en fait, on fait une écoute du dernier CD de la revue Jeff Clack. Parce qu'en fait, Jeff Clack, c'est une revue qui paraît une fois par an à peu près, qui est une revue de critique sociale et d'expérimentation littéraire, comme nous avons constaté tout à l'heure.
Avec un sous-titre en débat en ce moment.
Ah, voilà, paraît-il. Et en fait, cette revue, depuis, ça fait à peu près 5-7 ans que ça existe, on va dire. Benoît aussi un peu en faisait partie. Et Émilie en fait partie toujours actuellement. Moi, j'en ai fait partie aussi. Du groupe son de Jeff Clack, parce que donc à chaque revue il y a un CD qui continue le thème. Ce qu'il faut savoir, oui, c'est que c'est le principe de Jeff Clack, c'était de partir de la petite charade trois petits chats, voilà. Et on a commencé à Marabout, premier numéro, deuxième numéro, bout de ficelle, selle de cheval, cheval de course. Et là, on va écouter le CD de course à pied, qui a été, c'était l'année dernière, ouais.
C'est ouais, c'était l'année dernière.
Le dernier numéro de la revue, ouais. Donc voilà.
Là, on est en train de travailler sur Pied à terre qui sort en septembre. On est en période de pré-bouclage. Et du coup, ouais, c'est ça, c'est à la fois une revue, un collectif, un site internet.
Un site internet aussi.
Et comme Manu disait, il y a un CD de création sonore original à chaque fois. On ne va pas chercher des pièces qui existent, mais on les crée exprès pour le numéro. Puisque cette histoire de Marabout, bout de ficelle et celle de cheval, ça permet à chaque fois de creuser un thème vraiment en profondeur. Et c'est vraiment une revue qui travaille sur le temps long. Le site internet, il est plus relié à des choses plus brûlantes ou plus liées à l'actualité, avec des parutions plus régulières. Mais la revue, elle paraît vraiment une fois par an, avec 220 à 250 pages. Donc vraiment un énorme boulot de graphisme aussi. Il y a un comité visuel assez fou.
Oui, complètement foufou. Non, mais c'est clair, Jeff, là, on peut le dire. Et on peut découvrir, du coup, tous les numéros sont ici pour ce week-end. Donc, vous pouvez venir les compulser et les acheter compulsivement. Et donc, on va écouter ça dans un instant. Un dernier mot, une actualité brûlante. On se retrouve tous, de toute façon, au Festival Rien à voir à Monestier.
Non, oui.
Et ce soir aussi, non, ici ?
Ah oui, oui. évidemment. Bah, venez boire des coups. Il y a des concerts peut-être ce soir ?
Oui, tout à fait. Il y a des concerts. Je crois que ça commence vers 21h.
Très bien. Tu sais qui c'est ? Alors, disons-le. Donc, les concerts, il y aura l'Enimu du post-punk de Toulouse, Fiasco de la Cold Wave et T-shirt Indie Rock de Lyon.
Et voilà.
Et voilà. Et venez boire l'apéro, quoi, en gros. Hein. Mm. On écoute tout de suite donc le CD Course à pied de Jeff Clack. Merci beaucoup.
Merci.
Alex.
Merci.
Salut.
Chut. Grave aux gueules.
Ça commence.